Bonjour à tous. Si je suis aujourd'hui devant vous, c'est parce que on a appris que pour Regard sur l'exil, j'avais fait quelques recherches pour répondre à des lycéens. Je m'attendais à certaines questions et que j'avais un petit peu passé la question sur les migrants, notamment la réponse à certaines rumeurs dont on va reparler. Et donc c'est à ce titre-là que Jean m'a contacté cette soirée. Je commencerai par une idée dont on a parlé, mais il me plaît d'y revenir, c'est celle qui consiste à être persuadé que notre terre, je veux parler de l'Hexagone, notre terre est une terre de migration. Si on peut remonter jusqu'aux Celtes qui peuplèrent notre région, parce que nos ancêtres ne sont pas les Gaulois c'est une insulte. Donc de ces Celtes-là, avec tous les passages qu'il y a eu sur cette terre, qui ont bien entendu laissé des gènes, si les Grecs sont venus dans cette ville qu'on appelle aujourd'hui Marseille, si les Romains qui ont vécu 500 ans ont forcément laissé des gènes, et d'autres, les invasions qu'on dit barbares, et notamment le peuple franc, sur lequel je vais m'apesantir un peu plus de 30 secondes, ce peuple franc venu de l'Est, il ne pouvait pas venir de l'Ouest, hein, l'Ouest était l'océan, et encore les bateaux n'étaient pas capables de les traverser, mais ce peuple venu de l'Est, qui s'est installé sur les terres romaines, et qui a vécu, nous a quand même donné le nom au pays que nous avons aujourd'hui. Nous portons donc le nom d'un peuple émigré. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui l'ont vu, mais les Francs étaient des immigrés. Et lorsque j'entends parler de la France, fille aînée de l'Église, le premier roi qu'on dit chrétien est Clovis, c'était un franc, fils d'immigrés. Alors je ne sais pas à cette époque-là combien de temps on était immigré, parce que la loi du sol mettra 1050 ans pour exister, mais les premiers rois qui ont succédé, notamment à son quatrième fils Clotaire, qui fut l'arrière-grand-père d'un roi que tout le monde a entendu parler parce qu'il avait mal mis sa culotte un jour. Voilà, Dagobert. Donc tous ces gens-là sont quand même des enfants d'immigrés. Et puis, on ne va pas s'apesantir sur toutes les guerres et les passages qui sont venus, il y en a eu beaucoup. Et tous, bien entendu, ont laissé quelques gènes qui traînent. Donc je me demande où est le gène français pur. En sachant aussi, dernier élément, que les frontières de la France n'ont pas été celles qu'elles sont aujourd'hui, qu'elles ont fluctué, que l'Est, la Savoie, le comtat venaissin et autres comtés de Nice, si ça vous rappelle un peu d'histoire, ont eu les frontières qui ont navigué, et que donc, du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec des gens qui étaient des émigrés sédentaires, puisque leurs parents étaient d'un autre pays que le leur, puisque la frontière avait coulé. Donc nous sommes à différents niveaux, mais je crois que nous sommes tous issus de la diversité. Voilà, c'était mon introduction. Alors, cette soirée, je désirerais d'abord tuer trois idées types ou trois rumeurs. La première, c'est la France qui reçoit le plus d'immigrés dans le monde. Alors, la France, c'est le petit carré rouge. En 2014, 64 811 immigrés. Et nous avons le Royaume-Uni, par exemple, 220 000, ce sont les chiffres de l'année dernière, hein, 220 000, l'Allemagne, 590 000, La Syrie, il y en a eu 100 000. L'Iran, 107 000. Le Pakistan, 1 700 000 migrants dans la mer. D'accord ? Donc quand on dit que la France est le pays qui reçoit le plus de migrants dans le monde, vous aurez ce diagramme dans la tête. On peut passer au deuxième. Alors le deuxième, c'est en France, on est envahi par les migrants. Alors, dans le diagramme que je vous propose, c'est un diagramme sur la population de 2008, parce que je n'ai pas trouvé de recensement plus proche de nous au niveau de la population des migrants. Sur une population totale de 64 millions d'habitants en 2008, il y a 8 276 000 personnes étrangères, ce qui fait 55 millions de Français. Alors la première colonne, la bleue, ce sont les 55 millions de Français. La deuxième colonne, en rouge, ce sont les 8 millions d'étrangers. Et dans ce diagramme, il y a 4 colonnes. C'est-à-dire que dans la colonne 3, qui est là, tout le monde la voit ?
Non.
Dans la colonne 3, ce sont, alors toute proportion gardée bien entendu, puisque c'est l'ordinateur qui a calculé, ce sont les 64 811 étrangers qui sont rentrés en France l'année dernière. Donc nous sommes envahis. Et dans la colonne 4, ce sont les 30 000 réfugiés que l'on dit qui vont arriver sur 2 ans, on en reparlera après, les 30 000 réfugiés qui vont arriver en France. Voilà. Donc, deuxième idée, nous sommes envahis par rapport à cette population. On peut prendre la numéro 3. La troisième, c'est ils viennent pour toucher les allocs et ils sont plus payés que les SDF français. Alors, il y a bien entendu l'intox. Le document que je vous montre est une photo. C'est une photo que j'ai trouvée sur Metro News. Alors, c'est pas eux qui l'ont fait. C'est une photo. Là en bas, il y a le logo de TV Liberté. Je ne sais pas si vous connaissez. Franchement, c'est pas avant. TV Liberté, avec dessous marqué source ministère de l'Intérieur. Et on voit, alors il y a quelqu'un qui a un panneau stop là-haut, je pense que c'est pour ça. Stop aux 340 euros par mois et aux 718 euros par mois, avec les deux allocations qu'un réfugié touche. Ce qui fait donc 1000 et quelques euros, le titre c'est « Aide financière aux migrants en France ». Cette photo est un montage. Alors si l'on regarde bien, il y a des gens avec des pneus. Là, notre parterre. Je ne vois pas très bien ce que les migrants feraient avec des pneus quand ils partent chez eux.
Mais prendre le pneu.
Ensuite, les gens sont noirs. Les Syriens ne sont pas noirs. Ensuite, il y en a un qui a un poteau stop sur l'épaule. Il y en a un autre ici là, qui a un autre poteau sur l'épaule. Je ne vois pas non plus ce que les migrants feraient en arrachant les poteaux du code de la route sur le côté. Donc, je suppose que cette photo, c'est une photo d'une manif en Afrique ou de gens qui se préparent à aller faire une manif, qui vont faire brûler des pneus peut-être, mais qui n'a absolument rien à voir avec les réfugiés syriens. Quant à savoir combien ils touchent. Alors, ils touchent quelque chose s'ils ont fait leur demande d'asile. Donc, s'ils ne l'ont pas fait, ils ne touchent rien. S'ils l'ont fait, deux possibilités. S'ils sont hébergés en CADA, ils touchent 4 centres d'accueil des demandeurs d'asile. Ils touchent 91 euros par mois par adulte. C'est-à-dire que dans une famille, s'il y a 5 enfants, n'y a que le père et la mère qui touchent. Hein. 91 euros par adulte. La somme de 718 euros existe, c'est le maximum qui puisse être donné pour 6 personnes. S'ils ne sont pas hébergés, ils touchent 11,45 euros par jour et par adulte. Ce qui fait, si on fait la multiplication, pour un mois de 31 jours, 354,95 euros, qu'on peut arrondir pour un couple à 710 euros, qu'ils aient un, deux ou trois enfants, et ça pour tous les frais. S'ils ne sont pas hébergés, ils doivent se payer la nourriture, le logement, le chauffage, tout. Donc 710 euros.
Non, mon
froid. Voilà. Ça, ce sont les trois premières idées sur lesquelles je voulais qu'on s'arrête.
Et c'est quoi du coup les 340 euros ?
Alors les 340 euros, ça s'appelle allocation temporaire d'attente. Donc, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, mais je ne les ai pas trouvés dans la documentation que j'ai recherchée.
C'est les 11 euros par jour. C'est les 11 euros par jour. C'est la tasse, c'est ça, la location temporaire d'attente, c'est ça. C'est 11 euros par jour par personne.
340, moi j'avais trouvé. Oui, j'avais trouvé 354.
Parce qu'il y a des mois de
principe. Le document suivant que je vous présente, ce sont les pays, certains pays de migration. Bien sûr, moi je parle de la migration là, vers la France, vers l'Europe. Hein. Donc, on parle beaucoup des Syriens. Les Syriens, c'est là-haut le tout premier avec les carrés jaunes. Alors, il y a dans les chiffres, il y a une étape, c'est le premier trimestre 2015. C'est-à-dire qu'au-delà du premier trimestre 2015, les chiffres s'emballent. Donc, ce document parle de 2015. 9000 Syriens. Qui sont arrivés en Europe. Alors, ce qui peut paraître beaucoup, mais ce n'est pas quand même la plus grosse affluence.
En France ?
Non, en Europe. En Europe.
Ce n'est pas 9000.
Donc, dans tous ces pays-là, il y a des pays africains, à part l'Afghanistan, qui est le quatrième. L'Afghanistan, il y en a 2500. Les autres, c'est des pays africains, l'Érythrée, le Nigeria, le Sénégal, le Soudan, etc., pour un total de 15 000 de l'Afrique. Et les autres pays qui nous envoient, enfin, nous envoient pas, d'où partent les migrants, c'est 11 000. Donc, il n'y a pas que les Syriens qui rentrent. Pour le moment, on parle des Syriens, mais il n'y a pas que. Alors, j'en viens à pourquoi les 30 000 migrants, puisque souvent, c'est ceux qui ont fait... un petit peu bouger les gens, on va recevoir 30 000 migrants en France. Alors, pourquoi ces 30 000 migrants ? La loi Schengen, qui stipule que les frontières les plus éloignées des pays délimitent l'Europe et la non-Europe, à cause du traité de Dublin, stipule que lorsqu'un migrant est contrôlé dans un pays, il doit rester dans ce pays où il est contrôlé. Et donc, ce qui fait que la plupart, à part l'Italie, qui elle se trouve dans ce cas-là avec Lampedusa, les autres pays, ce sont des pays de moyenne influence européenne. C'est vrai que quand ils arrivent en Hongrie, en Slovénie ou en Pologne, je veux dire, la France et l'Allemagne, elles ne se bougent pas trop. Ils se disent, bon, c'est leur affaire. Les gens arrivent là-bas, ils se débrouillent. Même si il y a, après le premier trimestre 2015, pas mal de bateaux, quand même, qui échouent avec un nombre très important de gens qui périssent. Mais le point de départ, enfin, la mèche qui a tout fait exploser, c'est la mort du petit Eylan Kurdi, ce gamin qu'on a retrouvé sur les plages turques, noyé. Et donc là, on s'est dit, ben, il faut quand même se bouger un peu. Ça fait effectivement du monde qui meurt. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens-là? Et donc, à partir de là, M. Donald Tusk, qui est président du Conseil de l'Europe, a déterminé que, dans un premier temps, l'Europe accueillerait 100 000 migrants. Puis ensuite, c'est passé à 140 000. Bon, pourquoi 140 000 quand il y a 3 millions qui sont partis et qui vont sûrement frapper à la porte de l'Europe? Et puis les autres, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Bon. Surtout lorsque le père, qui est le seul rescapé de la famille de 4, a raconté un petit peu comment ça s'était passé, puisque cette famille, elle a émigré au début du conflit en Turquie, pour ensuite émigrer au Canada. Sauf que, parce qu'au Canada, il y a une sœur au père. Et la sœur au Canada a demandé une immigration légale pour sa famille. Sauf que venant de Turquie, le Canada, il a dit non. Et donc, comme la migration légale n'a pas pu se faire, eh bien, ils sont partis par bateau. Enfin, j'allais dire, ils n'ont pas eu de chance, oui. Parce qu'ils partaient vers l'île de Kos. Il y en a qui ont atteint l'île de Kos en jet ski. Donc, c'est pas à 300 km. Là, ils sont partis en bateau, le bateau qui a chaviré. Et donc, à cause de ça, les 140 000 migrants que l'Europe va prendre, il y en a 30 000 pour la France. Et donc, ce sont ces 30 000 qui posent problème. C'était la quatrième colonne, tout à l'heure, du diagramme qui indiquait qu'on allait être en guerre. Je passe maintenant à la partie un petit peu historique sur les migrations. Normalement, ça doit durer 10 minutes. Alors, nous avons... Attends, c'est tout à l'heure. Nous avons... Je suis remonté simplement que jusqu'à 1850, parce que les historiens disent que depuis 650 jusqu'à 1850, il n'y a pas de migration. Ils parlent d'exode continu, mais pas de migration. La seule migration étant celle des Normands, pour les scientifiques. Hein. Donc, moi je suis parti au niveau de 1850, avec trois grandes périodes de migration. La première, c'est celle de la révolution industrielle, donc jusqu'à la guerre de 14, l'entre-deux-guerres et après 1945. Au niveau de la révolution industrielle, c'est une politique d'appel à l'étranger qui est mise en place par le gouvernement parce qu'il y a en France un déficit de main-d'œuvre, de soldats et un déficit démographique. Donc, je suppose, enfin, c'était pas marqué, mais je suppose dû à la guerre de 70. Voilà, et donc ils font appel à une main-d'œuvre qui n'est pas qualifiée, qui est pensée sur le territoire français pour un temps limité, dans l'espoir que lorsque ce sera, que la nécessité aura pris fin, ils vont retourner chez eux. Et donc nous avons des Italiens, des Belges, des Suisses qui arrivent à ce moment-là. Des migrants venant des colonies, des migrants juifs aussi. Au niveau de la guerre de 14-18, nous avons une main-d'œuvre aussi non qualifiée qui vient, avec des Belges, des Suisses, des Italiens, des Kabyles, des Maghrébins, des gens de l'Indochine. Nous avons, alors, le petit rectangle, c'est le même que tout à l'heure, c'est les 64 811 migrants qui sont arrivés dans l'année 2014, que je mets à comparer, alors bien sûr c'est pas du tout historique, puisque je mets à comparer avec des migrants du début du siècle, il y avait à ce moment-là 420 000 Italiens, 287 000 Belges, 105 000 Espagnols, 102 000 Allemands, 72 000 Suisses, 600 000 des colonies françaises, 35 000 Chinois.
Et les Portugais?
Et les Italiens?
Alors les Portugais, ça va être après.
Après.
Ça va être après.
C'est la 12e colonne.
Voilà. Et donc, avec aussi des gens qui sont pas répertoriés là, des Tchécoslovaques, des Russes, des Arméniens, aussi des Italiens, des Espagnols.
On est 1 million, c'est la population la plus importante en France, il y a 1 million de Portugais.
Parfait, je vais nous rappeler.
Merci.
Entre les deux guerres, nous avons en France 2 800 000 étrangers, c'est-à-dire 5,9% de la population, c'est-à-dire à peu près la situation de 2014. Sur 18 ans, entre 1921 et 1939, sur l'entre-deux-guerres. Donc ces 2 800 000 sont des gens qui sont rentrés. Ça représente 160 000, un peu plus de 160 000 personnes qui rentrent en France par an. 160 000 à cette époque-là. Nous en sommes à 64 000. Hein? En gros, trois fois moins. Et ils ont naturalisé français durant ces 18 ans 1 million de personnes. Si on ramène les calculs, 1 million de personnes, ça représente un peu plus de 55 000 personnes par an naturalisées. Il y en a 64 000 qui rentrent en 2014. C'est-à-dire à cette époque-là, ils naturalisaient chaque année autant de migrants qui rentrent maintenant. Alors, les migrants pendant la guerre, ça c'est l'exode, 1939. Un quart de la population, c'est-à-dire 8 millions de personnes, ont migré vers le sud. Ce camembert représente la migration par rapport à la population totale de la France. C'est-à-dire qu'en réalité, il est faux, parce que comme ils sont partis du nord vers le sud, il aurait fallu mettre par rapport à la population du sud. Combien sont rentrés du nord vers le sud ? Ça doit avoisiner les 52%. À cela s'ajoutent les 2 millions de Parisiens intramuros qui ont quitté Paris dans l'année 1940. Alors c'était au mois de... ça c'est en mai. Paris c'est au mois de juin, je crois, ou de juillet. 2 millions sur 3 millions de personnes, il y en a 2 qui quittent Paris et qui donc va gonfler les 8 millions pour en faire 10. Sur 30, ça fait donc un tiers. Voilà. Après la guerre, nous avons une migration de regroupement familial avec notamment beaucoup d'ouvriers, soit agricoles, soit dans la maçonnerie, soit dans le bâtiment, soit dans l'industrie, de gens qui sont venus. Les Portugais. Alors, nous avons. Alors, là aussi.
1960.
Le rouge, c'est toujours les 64 811 migrants de 2014. Ceux qui sont énormément beaucoup. Je rappelle que c'est le chiffre de 30 000 qui cause le problème. C'est-à-dire la moitié de ça qui cause le problème actuellement. Nous avons 600 000 Espagnols, 1,8 million d'Italiens. Moi, j'ai 580 000 Portugais dans les chiffres. 5 000 Français d'Indochine, 42 000 Harkis, 800 000 rapatriés d'Algérie. Ceci à peu près jusqu'aux années 70. Bon, là aussi, ce qui est intéressant de voir, c'est toujours le rapport entre les migrations qu'il y a eu au début du siècle et la migration actuelle. Comment c'est donc disproportionné. Quand on parle de disproportion, j'aime bien Non, après. Ah si, non, c'est maintenant.
On fait un qui suit.
En 1962. 1962, nous avions 6,91% d'immigrés en France. Ça représente, non, ça représente 6, pardon, ça représente 3 millions 248 000. En 1968, ils sont 3 854 000 sur une population totale qui a augmenté de 3 millions, ce qui représente 7,65%. Alors 1% de plus, ça fait quand même 660 000 personnes. Hein. Et par rapport au pourcentage donc, de la population d'immigrés des 8, voilà. Dans ce dernier diagramme, il y a trois colonnes. Alors, la première, c'est la population française en 2015, donc actuellement, celle de 66 238 189, je ne comprends pas pourquoi c'est 89, mais c'est la population française. Parce que ça change toutes les secondes. La colonne numéro 2. La colonne numéro 2. Ce sont la population immigrée de 2014. 64 811. D'accord ? Et dans la colonne 3, c'est les 30 000 qui pose problème. J'ai pas réussi à en faire un camembert. L'ordinateur n'a pas voulu me prendre la coloration là, de la colonne 2 et 3. J'ai une dernière comparaison. Le rapport entre la colonne 1 et la colonne 2 est de 1 sur 859. Ce qui veut dire que dans un village comme Saint-Cyprien, qui a 880 habitants, ou Ozitz, qui en a 870, l'invasion des 30 000, ça correspond à un immigré qui rentre dans le village. Je ne dis pas une famille, un immigré qui rentre dans le village. Ceci pour avoir donc toute proportion gardée, avoir quelques réponses. Je termine, j'en ai pour 2 minutes. Je voudrais que vous me disiez, c'est dans ma conclusion, 4 points, qui sont une liste de gens, Stopira, Piantoni, Rodzi, Budzinski, Djorkaeff, Copa. D'accord, ce sont les membres de l'équipe de foot des années 60. Ensuite, Lloris, Koscielny, Mangala, Ben Arfa, Diarra, Pogba, Sissoko, Matuidi, Griezmann, des noms bien français. Ce sont l'équipe de foot actuelle. Je vous ai donné 11 noms sur les 22. Ensuite, Guillaume Apollinaire. On essaie, un écrivain bien français, bien de chez nous, a été d'ascendance polonaise. Isabelle Adjani, bien de chez nous. Germano-algérienne. Bon, tout le monde connaît Charles Davon, bien entendu. Robert Badinter.
Je ne sais pas.
D'origine d'ascendance polonaise. Josiane Balasco, d'ascendance bosniaque. Alain Machoun, Franco Kabyle, Georges Charpat, d'ascendance polonaise. J'en ai 5-4 sur la liste. Mais je veux dire, il y a toute une liste. de gens que l'on voit bien de chez nous, bien français, et qui heureusement ont apporté par leur migration, oui, mais... ont apporté des choses.
Sarkozy.
En fait, la nationalité française, c'est quoi, on est grosso modo 30% d'être d'origine française, étrangère. Mais ce qui est vachement important, c'est que il y en a qui sont français depuis plus longtemps que d'autres. Mais voilà, on est jeune français, on n'est plus français depuis plus longtemps.
C'est tout à fait.
On sera tous français, quoi.
Tout à fait.
C'est tout, quoi.
Il y a... Je termine juste sur la dernière phrase. Par une interview d'un petit enfant en classe de maternelle, le journaliste lui dit... Alors, il y a beaucoup d'étrangers dans ton école ? Et le gamin répond : ah non, il n'y a que des enfants.
Donc, je laisse la parole à. Martine ?
Allez, j'y vais. Vas-y. Bonsoir à tous. Donc, je fais partie de l'association Jamais sans toi, une association qui existe depuis un an et demi maintenant. Et qui en fait s'est construite, on va dire, à partir d'un vécu, voilà, d'amis qui se sont retrouvés à loger une famille qui était en OQTF, c'est-à-dire en obligation de quitter le territoire. Et comme on était très naïfs et qu'on ne connaissait pas du tout ce monde des migrants, on était très apeurés, la famille aussi, on les a cachés, quoi. QTF, ça voulait dire pour cacher les gens. Donc on les a cachés et on peut imaginer comment c'est une vie de gens qui se cachent hors d'une ville. C'est bon, une situation très difficile et les gens qui ont hébergé cette famille-là voilà, ont vécu un moment assez dur puisque ben, voilà, c'est une rencontre aussi entre deux cultures, dans un lieu, voilà, dans une maison, avec une famille et puis ces personnes-là avaient des enfants. Bon bref, une vie... une rencontre humaine très intéressante, mais aussi une difficulté dans le quotidien. Et après mûre réflexion avec d'autres personnes qui gravitaient autour de cette famille, on s'est dit qu'est-ce qui se fait ailleurs, comment ça se passe. Alors Momocho, je crois, avait commencé, existait déjà. Et bon, il y avait leur expérience et on s'est dit peut-être qu'il y a aussi un autre moyen de trouver à ces gens un lieu pour vivre, parce qu'on pense que l'intégration, elle passe aussi par un lieu à eux, pour que déjà la famille puisse vivre vraiment ce qu'elle a à vivre dans la famille. Et puis, voilà, un toit, de quoi manger, et être autonome le plus indépendant possible. Alors, il y avait des expériences menées dans d'autres lieux en France. Béziers, bon, je ne sais plus où c'en est maintenant avec la nouvelle mairie, voilà, c'est vrai qu'on n'a pas cherché. Clermont-Ferrand, je crois que ça continue encore. Bon, d'expérience en fait, d'associations, d'institutions où il y avait les CADA et toutes les institutions dont on parlera sûrement après parce qu'elles font un super boulot, Secours Populaire, Emmaüs, Resto du Cœur, j'en oublie, Secours Catholique, voilà. Alors CIMAD dans le côté plus aide institutionnelle, on va dire, là je parlais plus de l'aide sociale, on va dire. Et donc, on s'est dit, bon, mais on va essayer de... Donc c'est ces groupes-là, dans ces lieux-là, il y avait les institutions qui étaient bien entremêlées et qui proposaient, même le Conseil général de Clermont s'était engagé, proposait des logements. Alors on s'est dit, ben, pourquoi pas chez nous, allons-y. Et voilà, et donc Jamais sans toi naît l'an dernier avec un logement et petit à petit, là je sais plus où on en est tellement ça va vite, mais on doit avoir 7 familles. Une, ben, deux, enfin il y en a 3, on va dire.
Et puis d'autres qui vont arriver en 2016.
Donc en fait, Jamais sans toi a commencé par une, deux familles au niveau de la communauté sur Marciac-Vallon. Et puis on a créé, il y a des antennes qui se sont créées parce qu'il y a des gens qui se sont dit, ben, nous, on sent l'envie et on est capable d'accompagner des familles. Donc il y en a sur Entraille, donc il y a une petite, il y a une antenne donc à Entraille de Jamais sans toi. Il y en a une à Decazeville, il y en a une sur Odèse, il y en a une
Villefranche-de-Rouergue.
Voilà donc. Et donc l'idée aussi, c'est de se dire que ça suffit pas d'avoir un toit. De les aider, on va dire, socialement, à faire des liens avec toutes les institutions qui gravitent autour de chez nous. Mais c'est les accompagner parce que quelquefois ils ne parlent pas français, ils ont besoin de connaître aussi la culture de notre pays. Et donc forcément quand une antenne se crée, il y a tout un réseau d'individus autour. Et parmi les gens qu'il y a là, je crois qu'il y en a pas mal qui sont investis, soit à Momocho, soit à Jamais sans toi, ils pourraient prendre la parole autant que je la prends. C'est que sur Marcillac, une vingtaine à être actifs au sein de ces deux familles. Enfin, les familles sur Nus et Marcillac. Et voilà, il y a des plannings qui s'organisent pour accompagner les personnes. Il y a tout ça. Mais l'idée, c'est qu'elles s'intègrent de plus en plus. Et ça passe effectivement par la langue, par l'école aussi, quand il y a des enfants. Et bon, imaginez comment ça peut être une famille... Qui n'a pas les moyens financiers et qui, tous les jours, va essayer de chercher des moyens pour survivre. Donc, les institutions nous aident beaucoup. Et puis, les donateurs, puisque, Jamais sans toi, c'est créé aussi avec le fonctionnement de donateurs. Donc, l'idée, c'était de partir sur 100 familles. S'il y a 100 personnes qui donnent 5 euros, ça correspond à 500 euros, on pourra loger...
Par mois, 5 euros par mois.
Oui, je précise, puisque on est parti sur un loyer de 500 euros avec les charges comprises. Bon, on les dépasse pour certains cas, mais l'idée c'était ça. Et donc c'est ce qui se fait avec je ne sais plus combien de donateurs. Mais bon,
plus de 130
donateurs. Alors bien sûr, il y en a qui donnent plus. Bon voilà, ça fonctionne. Donc je crois qu'il y a un petit prospectus par là, donc qui est présent, si vous voulez participer,
le petit dépliant
de
bleu.
Quelque manière que
vous
ce
pouvez
soit.
Le brandir là pour qu'on puisse le retrouver. Voilà,
mettez voilà, là. Soit financièrement.
Je suis habitué à brandir.
Donc l'association est d'intérêt général. Donc si vous gagnez beaucoup d'argent, vous payez des impôts, donc vous pouvez avoir des réductions de 66%, je crois. Ouais. Voilà, donc c'est pas rien. Si vous donnez 200 euros, ça veut dire que en fait vous payez que 80 euros, je crois, par mois.
Le tiers.
Voilà, le tiers. Donc ça peut être intéressant. Bien sûr, l'argent ne suffit pas. Il faut de la solidarité, il faut de l'humanité. Et quand on n'a pas d'argent, on peut donner un peu de soi, de son temps. Et ça, c'est super important. Donc voilà pour l'info. Le matériel, alors, on arrive à se débrouiller, mais c'est pareil. Souvent, régulièrement, il y a une liste qui circule sur Internet quand on a besoin de matériel et ça fonctionne très bien. Franchement, moi, si j'avais quelque chose à proposer ce soir, parce qu'on est tous engagés plus ou moins dans cette histoire avec ces migrants-là, c'est que on fasse quelque chose encore de plus important et se dire, comme proposait Michel, c'est-à-dire une famille... Une personne dans un village, c'est faisable. Donc il faut que ça mûrisse, mais il y a moyen parce qu'on n'a pas d'autre solution. Les politiques. Bon là, ça bloque. De plus en plus de murs se construisent, de plus en plus de frontières se ferment. Alors que logiquement, après les lois économiques sur la libre circulation des marchandises, ça marche bien. Les humains, ça passe pas. Donc on n'attend plus rien des politiques par rapport à ça. Donc allons-y, quoi. Je crois que par rapport à Jamais sans toi, Momocho, on montre que c'est possible.
Martine, il faut peut-être expliquer il s'agit de familles qui sont déboutées du droit d'asile. Donc c'est pas des Syriens. Là, on voit aussi qu'il y a des projecteurs qui se déplacent. Ouais, mais j'ai mal au dos. Il y a des projecteurs qui se déplacent et qui mettent la lumière sur certaines catégories de migrants. Et en fait, ces personnes-là, quand ils sont déboutés du droit d'asile, n'ont plus accès à aucune aide. Ils n'ont pas le droit de travailler. Ils sont vraiment dans l'ombre. Voilà. Ils sont dans l'ombre avec leur famille. Donc, c'est en ça où l'action est...
Par rapport au travail, c'est vrai que...
Ça ne se substitue pas à l'État. C'est que l'État ne fait plus rien pour eux.
Voilà, donc ils sont hors... ils n'existent pratiquement pas. Enfin, on veut les mettre dehors. Pardon ? Ils sont des sans-papiers. Donc c'est des combats aussi au quotidien, c'est vrai, pour essayer d'avoir aussi au niveau sécurité sociale. Enfin, il y a des choses en France qui sont intéressantes pour eux. Mais bon, il faut... c'est vrai qu'on fait beaucoup de démarches pour qu'ils aient au moins ce minimum de droits. Mais ce que je voulais dire, notre problème là, c'est le problème là du travail, effectivement. Parce que là, ils ont un toit... socialement, on arrive à s'en sortir, ils ont de quoi manger, ils ont de quoi s'habiller. Bon, ils arrivent à travailler, c'est super pour elles. Hein. Parce que là, l'autonomie, l'indépendance, elles l'ont de plus en plus. Parce que malgré tout, on est quand même dans un fonctionnement un peu protecteur. Et aussi, ce qui est difficile, c'est d'arriver à avoir cette marge de recul par rapport à ces familles. Moi, je trouve ça très difficile, mais bon, c'est super enrichissant. Mais je ne sais pas comment à Momocho, vous vivez ça, mais faut trouver ce juste équilibre entre aider, mais pas faire à la place d'eux. Et puis, ils sont toujours tellement... Voilà, ce problème financier est important, quoi, le fait de ne pas travailler... Au niveau de la dignité, c'est terrible.
Ils ont des savoir-faire en plus.
Ouais.
Plein. Pierre.
Je voudrais essayer si je vous dis des choses. Donc, Kaltoum du réseau Momocho. Donc, comme tu l'as un peu dit, nous, ça fait 2 ans qu'on réfléchit à la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour les familles avec enfants qui dorment dehors. Donc, c'est vrai que les premières réunions, on était tous un peu ensemble et certains ont pris la voie de Jamais sans toi et d'autres se sont dit que. On peut prospecter de ce qui se faisait déjà sur l'Aveyron et on a rencontré des personnes, comme tu disais, qui hébergeaient déjà des familles sans papier. Voilà, on a rencontré plusieurs pour savoir s'il y avait l'intérêt à faire ce genre de réseau ou pas. Et dans les rencontres qu'on a pu avoir, la réponse était oui. Donc on a créé Momocho qui est un réseau d'hébergeants solidaires. Donc l'idée c'est d'héberger des familles avec enfants qui n'ont pas de toit, de manière itinérante en fait. Donc on a un réseau entre 15 et 20 hébergeants, des particuliers, qui ouvrent leurs portes pour une nuit minimum à 15 jours, 3 semaines, voilà. Donc voilà, nous c'était la problématique, c'était qu'on ne peut pas laisser des familles avec des enfants dehors. Donc c'était la solution c'est la solution qu'on propose jusqu'à présent. Donc ça fait, on a mis un an et demi à réfléchir exactement à comment on pouvait coordonner ce réseau-là. Et là, de manière effective, il fonctionne depuis mars 2015, depuis exactement les vacances d'avril 2015. Et voilà, donc on a hébergé jusqu'à il n'y a pas très longtemps une famille avec de 6, donc un couple avec 4 enfants, dont la plus petite doit avoir 18 mois, si je ne dis pas bêtise. Et voilà, donc des fois, tous les 3 jours, des fois plus longtemps, tous les 15 jours, on les a déplacés nous-mêmes. Donc on est en douzaine de bénévoles qui sont coordonnant le réseau. Et on les a déplacés chez les hébergeants qu'on a rencontrés au préalable. Pour parler de toutes les...
On a établi quelques règles de vie commune.
Voilà, c'est que nous, voilà, la seule demande qu'on avait, c'était d'héberger les familles pour la nuit. Après, au fil des rencontres avec les hébergeants, il y a des propos qui ont dit bah non, ils peuvent rester toute la journée chez moi, j'offre des fois le gîte et le couvert aussi, la possibilité de prendre de les déplacer aussi, parce que c'est des hébergeants qui peuvent être un peu excentrés du Rodez. Donc s'ils avaient besoin d'aller dans les œuvres caritatives, comme le secours populaire, le secours catholique pour les colis alimentaires. Donc voilà, c'est des choses qu'on a travaillées pendant avec chaque hébergeant. Et voilà, donc la motivation première de pourquoi on a fait ce réseau, c'est que, voilà, il y a 2 ans maintenant, il y a des choses qu'on peut changer, mais il y a 2 ans, on pouvait, voilà, les personnes qu'on avait, les familles avec enfants qu'on pouvait dormir dehors, c'était des déboutés, voilà, c'est-à-dire des personnes qui ont eu la demande d'asile qui arrivait à la fin, donc c'est terminé, où il y avait, il y a 2 ans encore, des primo-arrivants, donc des personnes qui arrivent à peine sur le territoire. Donc à l'heure actuelle, on sait que tous les primo-arrivants sont normalement logés. Et l'autre chose, c'est que il n'y a pas de place d'hébergement d'urgence, ce qu'on appelle le 115 communément, pour les familles. En Aveyron, il n'y a pas. C'est soit on sépare les familles, donc on met le père d'un côté et la maman avec les enfants de l'autre, mais il n'y a pas de place proprement dite pour des familles en Aveyron pour le 115. Donc tout ça nous a amené à créer Momocho. Et voilà, donc on fonctionne depuis avril 2015. Et bon, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, Martine. La famille, actuellement, depuis le 1er novembre, voilà, on s'est rapproché de Jamais sans toi. Et on coordonne l'antenne de Rodez de Jamais sans toi, en fait, pour pouvoir héberger cette famille. Donc depuis le 1er novembre, elle est dans un appartement stable. pour cette famille avec quatre enfants. Ça ne veut pas dire que Momo Show n'existe plus. Momo Show va continuer. Et si, voilà, pour l'instant, on peut se dire, je ne sais pas si c'est une remarque que vous allez peut-être faire, mais on a hébergé une famille. Mais c'est déjà une famille. C'est pas parce qu'on, voilà, parce qu'on a eu des fois ce genre de remarques. Enfin, personnellement, j'ai eu à répondre à cette remarque. Oui, mais vous n'en aidez qu'une. C'est pas parce qu'on n'aide pas tout le monde que la possibilité d'en aider une n'a pas sa légitimité, en tout cas. Pour nous, on, voilà. Après, quand je dis une nuit, ben, c'est déjà une nuit, en fait. C'est déjà une nuit qui ne passera pas dehors, qui fasse très beau ou qui fasse moins 3. Pour nous, ça ne change rien. Tout ça pour dire, je ne sais plus, mais... voilà, donc Momo Show continuera. Et c'est vrai que pendant tout ce temps, une famille de 6, c'est conséquent. Ouais, voilà. Donc sur notre quinzaine, vingtaine d'hébergeants, tous n'ont pas la capacité d'accueil de 6. Donc en effet, on a sollicité, je pense, une petite dizaine, même pas, d'hébergeants pour accueillir cette famille. Et en effet, c'est vrai que ça demande quand même beaucoup de temps, parce que quand je dis ça, c'est que donc on est déjà 3, mais il y a d'autres bénévoles qui n'ont pas pu venir. On assure l'entrée physique chez les personnes et on assure aussi la sortie. Donc on fait à chaque fois les déplacements, donc ça peut être des déplacements tous les jours, enfin ça ne s'est pas arrivé, mais en tout cas tous les 2 ou 3 jours. Voilà, donc on les déplace et 6 personnes à déplacer, en effet. Donc c'est pour ça qu'on a pris sur nous de dire, pour savoir comment ça fonctionnait aussi, pour voir si c'était une solution qui pouvait être envisageable sur le long terme. Et voilà, on a pris cette famille, uniquement cette famille. Donc maintenant, je pense qu'on n'a pas encore annoncé officiellement, parce que faut savoir que notre démarche, avant d'héberger effectivement cette famille, on a rencontré un peu les institutions. Donc on est allé voir le CADA, on est allé voir, comment ça s'appelle, bon, c'était le SAO, mais ça ne s'appelle plus comme ça, mais en tout cas, ceux qui gèrent l'hébergement d'urgence, on est allé se présenter. Nous, en tant que Momo Show, on dit, voilà, nous, on crée ce réseau. Comme au CADA, on sait que quand ils sont déboutés, ils ont 30 jours pour quitter le CADA. Mais est-ce qu'on peut essayer d'anticiper des choses? Voilà. Et le SAO, c'était la même chose. Est-ce que, comme ils ont à répondre du haut 115, mais s'ils n'ont pas, est-ce que... Voilà, leur dire, on existe. Donc voilà, on s'est présenté. Et c'est la famille qu'on héberge et qu'une famille sortante du CADA. Le CADA nous a dit, dans telle date, elle va sortir. Est-ce que vous pouvez la prendre? Bon, la question, on a beaucoup réfléchi sur cette famille très, enfin nombreuse en tout cas, mais on s'est dit qu'on n'allait pas le faire en plus le choix de dire ben on prend cette famille, pas celle-là. Enfin, on a clos la discussion en disant qu'on prend la première qui nous interpelle. Mais de avril 2015 à aujourd'hui, constamment, au moins, je sais pas, en moyenne, un appel par semaine pour nous demander si on pouvait héberger. Des appels de plusieurs personnes, mais aussi de travailleurs sociaux. Donc on remarque bien que aussi les travailleurs sociaux qui ont ce public-là, bah, se retrouvent des fois démunis, parce que bah, ça a été un peu dit là, vite fait, bah, que l'État, en effet, pour l'État, ils n'ont plus la vocation à rester ici, mais en tout cas pour nous, on sait que même si leur histoire n'a pas été crue par les autorités, nous, peu importe, on sait qu'ils peuvent pas repartir, c'est impossible pour eux de repartir. Mais en tout cas, ils n'ont pas pour nous vocation à rester dans la rue. Donc voilà. Donc quand on voit que des travailleurs sociaux, qui ont ce public-là en permanence, nous appellent, on se dit que Momo Show a des contraintes, peut-être on pourra en discuter, mais en tout cas, Momo Show, même si on a créé jamais une antenne avec Jamais Sans Toi à Rodez, va continuer. Donc je pense que si on enverra un mail, en tout cas. Pour avertir tout notre réseau sympathisant et aussi l'institution qu'on a hébergé cette famille, je pense que le lendemain, on a sur le répondeur un appel pour héberger une famille. Et après, juste pour vite fait, mais peut-être que les filles pourront compléter mieux que moi, par rapport à l'antenne de Jamais Sans Toi, nous, on s'est dit que voilà, cette famille, est-ce qu'on pouvait faire quelque chose de. Voilà, essayer d'imaginer quelque chose de plus stable pour elle, pour pouvoir peut-être enclencher d'autres choses avec d'autres familles. Et on a fait nous aussi pareil, un appel aux dons avant de se rapprocher de Jamais Sans Toi. Et on a actuellement, pour financer l'appartement de cette famille-là, pas tout à fait 50 personnes, 50 donateurs. Voilà, donc on peut, le loyer pour notre appartement, bon, c'est anecdotique, mais 450 euros toutes charges comprises. Voilà, donc après, voilà, donc les donateurs payent, ben, de payer ce qu'on appelle les fluides, j'ai appris ça il y a pas longtemps, EDF, l'eau, le chauffage. Et après, voilà, ils sont sur Rodez, donc ils ont toujours l'écolier alimentaire, les enfants, ben, ils sont scolarisés dans le Grand Rodez, donc c'est très bien pour eux. Et voilà, donc je sais pas ce que. Donc voilà, et du coup, nous, ben, voilà, on a créé l'antenne Jamais sans toi, mais on a. Voilà, c'est coordonné par un petit groupe de personnes, on passe régulièrement à les voir, mais du coup, depuis le 1er novembre, voilà,
ils sont dans des murs.
Ils sont dans des murs.
Dans leurs murs.
Avec un toit.
Ouais. Et en fait, voilà, en effet, du jour, quand on leur a annoncé la bonne nouvelle, c'était. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, donc on avait pensé à Momo Show, on avait des objectifs, c'est que on est comme dans le transparent, enfin, je veux dire, les personnes qui veulent nous contacter, on n'hésite pas. Je sais que sur la table, vous pouvez voir un des derniers communiqués de presse qu'on a envoyé à la presse. Bon, c'est vrai qu'on est assez bien relayé, on a fait plusieurs manifestations pour se faire connaître au Guingois récemment. Voilà, donc c'est aussi un des objectifs de Momo Show, c'était. Bah, on peut pas faire ça dans l'ombre dans le sens où on fait ça entre nous et les gens à côté ou les autorités ne sauraient rien, quoi. Donc c'est aussi les mettre face au manque qu'ils ont du fait des bouteilles de droit d'asile doivent repartir chez eux, ils n'ont plus vocation à rester ici, sauf que ils sont ici, quoi. Ils sont ici, donc nous, c'est notre manière aussi d'interpeller les autorités, dire qu'il y a des citoyens, ou en tout cas des personnes lambda qui hébergent, quoi. Donc je pense que ce soit Jamais sans toi ou Momo Show, je pense que c'est en accueillant des déboutés, on est complètement dans un acte de résistance, quoi. Voilà, parce que c'est vrai que les autres, ben voilà, ils rentrent bien dans les cases du droit commun, mais eux non. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose.
Prenez un collectif, prenez pas une association.
Oui, voilà, la différence avec Jamais sans toi, c'est qu'on n'est pas associatif. On n'a pas choisi le mot collectif pour pas faire résonance avec le collectif pour les réfugiés de Rodez. Bon, même si y a des gens qui sont sympathisants des deux côtés, donc voilà. Mais on est réseau. Donc pour plusieurs raisons, c'est que bon, la première, c'était qu'on n'avait pas forcément envie d'avoir à dire qui va faire le président, la trésorière, des machins comme ça. Et après, on n'avait pas forcément envie de, enfin pour le moment en tout cas, mais c'est jusqu'à l'heure actuelle. On n'a pas envie de faire des demandes de subvention pour exister, parce qu'on se dit qu'avoir des subventions, c'est faire aussi des fois rendre des comptes financiers, des choses comme ça. Donc voilà, pour l'instant, on reste réseau. Peut-être que, je ne sais pas si l'avenir nous dira si on évoluera en association ou pas. Je sais pas si.
Ouais. Donc vous êtes ouvert à recevoir d'autres propositions de familles accueillantes.
Mais oui, alors là, officiellement, on se voit jeudi soir prochain. Pour justement dire, voilà, ça y est, la famille, maintenant, elle est bien installée, on a tout aménagé comme il fallait. Donc oui, je pense que...
Non, mais de famille accueillante.
Ah oui, il y a des hébergeants, oui. Alors c'est vrai qu'on n'a pas mis, mais on a des petits flyers avec nos numéros de téléphone, et parce qu'on a une ligne dédiée rien qu'à Momo Show. Et on a un mail, donc après, oui, après, on peut se voir et on notera ça sur un bout de papier. On est preneuse et preneur, parce qu'il y a quand même un garçon dans le groupe, de personnes pour héberger, donc des hébergements. Après, comme je l'ai dit, on rencontre individuellement chaque hébergeant pour pouvoir expliquer un peu à quoi ça engage, même si je pense que toutes les personnes qui sont là sont sûrement très bien compris. Mais on a établi une petite fiche avec les coordonnées pour qu'on puisse vous joindre, la capacité d'accueil. Donc c'est des familles, donc c'est minimum un couple avec un enfant, le nombre de nuitées. Voilà, j'ai entendu le monsieur qui disait, oui, mais nous on est un peu excentré, mais est-ce que c'est possible? Voilà, c'est si c'est excentré, est-ce qu'il y a une ligne de bus qui passe dans le coin, ou est-ce que vous êtes prêts, vous? Non, mais on avait des familles sur le bassin, des Casse-Villois. Bon, il y a un bus qui passe, mais après, est-ce que l'hébergeant est prêt à proposer? Ouais, moi je monte une fois par semaine, ou une fois tous les deux jours à Rodez, bah, je veux bien les amener, c'est pas des choses comme ça. Après, qu'est-ce qu'on met sur cette. Et après aussi, on est preneur aussi de bénévoles. Parce qu'on est un petit noyau dur sur la douzaine, je dis, ou la quinzaine. un noyau dur du 7-8 à coordonner vraiment le réseau avec une personne qui est vraiment dédiée qu'au planning. Et mais après, il faut des personnes aussi pour le transport. Il y en a qui sont avec nous que pour déplacer la famille de tel endroit, on les appelle, c'est dispo. Ouais.
J'aimerais savoir comment ça se passe du coup pour les enfants qui sont scolarisés.
Alors, pour le cas donc, de la famille, on a réussi à maintenir la scolarisation, sauf, voilà. Sauf que dès qu'on a rencontré cette famille au CADA, on leur a expliqué qu'en effet, vu le réseau, le dispositif qu'on propose, on ne garantit pas la scolarisation. Après, ce qu'on leur a dit, c'est qu'ils sont complètement maîtres de la décision qu'ils vont prendre, soit d'accepter notre proposition, soit de la refuser en fait. Donc, jusqu'à présent, c'est vrai qu'on n'a pas eu cette question. C'est que pendant les vacances scolaires, ils n'étaient pas sur le Grand Rodez, donc c'était bon. Après, c'est vrai que en début septembre, la question s'était posée. Mais l'endroit où ils étaient, il y a eu une solidarité qui s'est faite entre les voisins qui a permis que les gamins aillent tous les jours à l'école. Donc, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas eu cette question-là. Mais c'est quelque chose qu'on leur a dit clairement au départ, en tout cas. Que si les enfants, ils vont pas, c'est pas la... C'est bizarre, on va pas mettre un ordre de priorité dans les choses, mais en tout cas, nous, ce qu'on leur propose, c'est de ne pas dormir dehors. Après, si on peut assurer le reste, même pour les colis alimentaires, c'est, ça se trouvait qu'on est à des moments pendant l'été, on a été allé chercher pour eux. Mais en effet, voilà, on offre des nuitées, mais si on peut arranger tout le reste, c'est encore plus génial.
Juste... J'ai aidé le petit garçon à faire ses devoirs et je lui dis mais pour toi c'est quoi le plus difficile dans ta situation parce qu'il bouge tout le temps, c'est vachement dur pour la famille. Petit garçon.
Ah d'accord,
et je lui dis c'est quoi le plus dur pour toi? Est-ce que c'est de déménager tout le temps tes affaires? Est-ce que c'est de voir papa et maman ils sont tristes? Moi j'essaie de le faire parler.
Ben ouais, un peu, ouais.
Et il m'a dit.